Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Malgré le froid qui arrive. Mais ce qui est important, c'est que ce qui est dans notre cœur soit vraiment chaud. Pour lui. Et pour nous tous ensemble. Que nous puissions être des en somme, voilà l'expression que je dis souvent, paraît-il. Que nous soyons réjouis et encouragés ce matin à travers déjà ce que nous avons entendu, à travers les différents chants, les prières qui sont montées, les paroles qui ont été données. Et je crois que ça va dans le sens aussi de ce message que je veux vous apporter ce matin. On va prendre dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 12. Ce chapitre 12 est précédé par un chapitre très important, c'est le chapitre de la foi, de l'expression de la foi, où on dit « par la foi, par la foi, par la foi ». Je n'ai pas fait le compte des termes « par la foi » dans ce chapitre, mais il y en a beaucoup. Vous pourriez les compter si vous voulez, mais pas maintenant. Hein. Vous attendrez après, à la fin du culte, si vous voulez compter, c'est « par la foi ». Il y a une définition de la foi qui est donnée au chapitre 11. Le premier verset dit là, que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi, voilà la foi véritable qui est la nôtre. Et ce long chapitre se termine ensuite au verset chapitre 12 par une exhortation. Nous donc aussi, nous aujourd'hui, ce n'est pas simplement ce qui s'est passé il y a presque 2000 ans, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet que celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point, l'âme découragée. L'âme découragée. Et il dit, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang, en luttant contre le péché. C'est notre lot à tous. Mais je voudrais simplement dire que nous sommes ici tous des témoins. Je suis environné d'une nuée de témoins. Chacun, côte à côte, pensons et croyons que même si nous n'avons pas donné notre vie totale encore à Christ, nous sommes déjà des témoins, parce que nous sommes ici. Parce que nous avons décidé de venir dans un lieu de culte. Que nous avons en somme bravé, presque pas les interdits, mais la moquerie. Nous sommes environnés d'une nuée de témoins. Vous êtes tous des témoins. Vous pouvez vous le dire à l'un à l'autre. Tu es un témoin pour moi aujourd'hui, parce que tu es là. Vous pouvez vous le dire, alors allez-y librement. Hein ? Je suis témoin que tu es ici. Ils ne veulent pas me laisser bouger, me faire bouger. Nous sommes tous des témoins de Jésus-Christ, parce que nous sommes là, parce que nous avons décidé de venir en ce lieu, que nous avons la joie de venir ici pour entendre la parole de Dieu, pour pouvoir la goûter, l'aimer, s'en nourrir, et surtout se nourrir aussi du témoignage des autres. Quand Robert disait tout à l'heure, que mardi avant, on avait demandé des témoignages. Moi, quand on prie pour les personnes et qu'il y a des réponses à la prière, quand il y a des exaucements de prière, ben pourquoi ne pas les partager? Vous voulez le garder secrètement pour vous? Il faut le crier presque pour que tous ceux et celles qui ont des besoins aujourd'hui et peut-être qui n'ont pas encore été exaucés sachent que c'est possible, que c'est une chose possible. William Booth, le fondateur de l'armée du salut, a dit un jour que nous, les chrétiens, nous devons être les hommes et les femmes de l'impossible. De l'impossible. Souvent, nous sommes découragés, abattus. J'écoutais la radio et il y a un philosophe, il s'appelle Monsieur Pépin, qui disait que la doctrine de l'échec n'est pas la même en France que, par exemple, aux États-Unis. Quand quelqu'un échoue en France, c'est fini. Souvent. Il est jugé, il est condamné. Il a échoué, il n'a pas réussi, c'est un nul. Aux États-Unis, quand quelqu'un a échoué, c'est qu'il a fait une erreur, mais que cette erreur, il ne la recommencera pas. Et donc, on lui donne la possibilité de se rattraper. En tant que chrétien, nous devons avoir la mentalité de la non-reconnaissance d'un échec définitif, mais de croire qu'en Dieu, tout est possible. Et que nous pouvons, nous, les uns les autres, en tant que témoins de Jésus-Christ, être manifestement d'autres hommes, d'autres femmes. Si nous avons échoué, nous allons relever. Et nous sommes là pour nous aider à nous relever. Parce que nous sommes tous des témoins de Jésus-Christ. Et on n'a pas à condamner le frère ni la sœur parce qu'il a échoué, parce qu'il a fait une erreur. On a à l'exhorter, à l'encourager, à la faire aller de l'avant, pour avoir une autre position ensuite. Ce n'est pas fini. La vie ne s'arrête pas à l'échec. Mais la vie peut être une suite d'échecs avec des victoires au bout. Vous savez, les conquérants, ils ont des victoires au début, hein, des grandes victoires. Et puis ça dure un certain temps, mais ça se termine toujours mal pour eux, jusqu'à perdre leur vie. L'échec final. Ils pensaient être des victorieux, avec leur propre justice, avec leur propre, peut-être, politique. Mais en fait, ils étaient déjà vaincus. Nous, les chrétiens, ne soyons pas des vaincus. Gardons la foi avec assurance. J'ai la foi. Je crois que Dieu peut me donner au-delà de ce que je peux recevoir. Même aujourd'hui, il peut me donner. On n'a pas à exiger. On a simplement qu'à attendre ce que Dieu veut nous donner. Je me rappelle des gens qui pensaient que leur vie n'avait plus de sens. Et ils ont pensé peut-être que dans l'Église, ça réussirait. J'ai raté ma vie dans le monde, je vais le réussir dans l'Église. C'est un mauvais calcul. Il faut reconnaître que notre vie n'était pas à la hauteur, mais que Dieu va nous aider à aller plus loin. Ce n'est pas par notre propre force, par nos capacités propres les uns aux autres, que nous allons aller plus loin. Est-ce que vous voyez des victoires dans vos vies? Je ne vois pas de main se lever, mais... Ah, il y a encore d'autres. Il y a des victoires dans vos vies. Peut-être pour nous, elles ne sont pas visibles. Mais elles ont été réalisées par la grâce de Dieu, par la puissance de Dieu. Il y a des combats, il y a des luttes. Les héros de la foi, quand vous regardez dans Hébreux 11, ils ont lutté. Ils ont combattu le bon combat. Malgré les échecs, malgré la difficulté, malgré les souffrances qui ont été les leurs, ils ont vaincu. Ils sont allés jusqu'au bout et ils sont dans la présence de Dieu aujourd'hui. Dans sa gloire manifestée dans le ciel. On pense peut-être, chacun d'entre nous, ne pas être des témoins à la hauteur, de ne pas être ces témoins de ce chapitre 11 des Hébreux. On pense qu'on est trop petits. Enoch, Noé, Abraham et les autres, est-ce qu'ils étaient des grands au départ? Peut-être, je ne pense pas. Ils étaient des hommes comme nous, des femmes comme nous aussi. Et qui ont travaillé et lutté jusqu'au bout. Surtout, ne vous lamentez pas, frères et sœurs, qu'aujourd'hui la vie soit difficile, que vous avez des grandes difficultés. Vous savez, d'autres ont connu ces choses et sont sortis de l'ornière. Je me rappelle toujours qu'on était en Afrique avec Marie-Thérèse, on était partis sur une piste, on avait dit qu'on prenait un raccourci. Oh. Quand vous entendez parler de raccourci, méfiez-vous. Et on se trouve sur une piste à travers la forêt avec un frère africain qui est avec nous, qui nous guidait. C'est lui qui avait dit qu'il y avait, bien sûr, il y avait quelques années, c'était un bon raccourci, mais l'état des routes n'était plus le même. Et voilà que sur la piste, à un moment donné, il y avait une plaque de boue, il pleuvait, il y avait de la boue. Et là, et c'était une Peugeot 404. Break, c'est mieux. Vous êtes à couper ? C'est coupé ? Oui. Une Peugeot 404 break. Et puis, voilà que dans la boue, ça commence à déraper. Mauvais réflexe, on freine. Et la voiture, dans le fossé. Penchée. Pas de village aux environs. Aucun tracteur comme chez nous. On n'avait que nos bras, six bras. Comment sortir de là? Alors, on s'est dit, on va avancer. Mais seulement, le fossé, il se prolongeait. Pas question de pouvoir avancer. On a mis des branches. Hein. Puis, on s'est dit, mais si on reculait, hein? On a mis les branches, donc, à l'arrière. Et puis c'était pas une traction avant. Donc on a réussi finalement, en marche arrière, à sortir du fossé. Parfois, il faut reculer, faire un zazard, pour mieux avancer ensuite. Parfois, on veut affronter des choses dans notre vie. On veut les affronter de face. Mais Dieu nous dit, recule. Je m'occupe, moi, du reste. Et on a pu sortir de ce fossé et reprendre la route. Et on a appris après coup que dans ce secteur, il y avait des coupeurs de route. On appelle ça les coupeurs de route, c'était les brigands qui rançonnent les voyageurs, qui étaient logés à quelques kilomètres de là, dans la forêt. Ils ont dû nous entendre pourtant, hein. On a fait du bruit, il y a le moteur. Et Dieu nous gardait. Et nous avons pu continuer la route sans problème. Un jeune américain avait entendu parler d'une tribu qui était en Amazonie, du côté du Venezuela. Il dit, cette tribu, personne n'avait arrivé à pénétrer dans cette tribu pour l'évangéliser. Tous ceux qui y entraient ressortaient morts, fléchés. Et lui, il s'est dit, mais Seigneur, tu me donnes mais à cœur cette famille, cette tribu, on m'en a parlé, moi je veux aller. Alors il va s'adresser au pasteur de l'église, qui lui dit, mais t'es malade, t'es fou, tu veux mourir? Tu ferais mieux de rester ici dans cette ville où tu es à l'aise, où tu as tout ce qu'il te faut, plutôt que de perdre ton temps là-bas. Et lui avait à cœur vraiment de servir Dieu, d'être un témoin là-bas. Et puis, il décide, il a quelques économies, je vais prendre un billet d'avion jusqu'à Caracas. Billet aller. Il n'avait que quoi payer un billet aller, il n'avait pas le retour. Présomptueux. Il avait eu un contact avec les pasteurs là-bas qui étaient à Caracas. Et puis, bon, on verra. Bon, il arrive là-bas en avion. Personne ne l'attend. Il arrive sur le tarmac. Il sort. Il sort de l'aéroport. Personne qui l'attendait dans un pays étranger, connaissant pas la langue. Il se retrouve tout seul. Et puis, il y a un petit garçon, un Amérindien, qui était là, et qui lui dit, mais vous êtes perdu, monsieur, venez donc chez moi. Et puis, il est donc hébergé chez cette famille vénézuélienne. Alors, il leur explique, et c'était des chrétiens, il dit, mais vous savez, c'est difficile, mais on vous encourage à y aller quand même. Donc, il part dans la forêt, il se fait flécher comme tous. Un tir, une flèche qui le touche, qui le blesse, mais au lieu de mourir, vu son jeune âge, ces gens ont dit, on a pitié de lui, on va le soigner. Et cet enfant, ce jeune homme, a été soigné par les Amérindiens. Il est resté chez eux plusieurs mois et il a témoigné de sa foi. Et à travers son témoignage, le chef du village s'est converti.
Et ils sont revenus, il est revenu à Caracas, accompagné justement de quelques Amérindiens qui étaient convertis. Tout le monde était étonné, bouleversé, mais y a-t-il rien d'impossible ? Pour celui qui croit et qui pense que c'est dans le plan de Dieu d'aller là-bas, d'être convaincu que c'est le plan de Dieu qui va se réaliser. Ce n'est pas parce que ça peut être le plan de Dieu. Quand c'est le plan de Dieu et qu'on est vraiment touché par Dieu lui-même dans notre cœur, qu'il faut qu'on fasse ces choses-là, eh bien, faisons-le. Et nous voyons des prodiges et des miracles qui s'accomplissent. J'ai connu une autre personne qui a voulu aller servir en Afrique. Il est parti avec femme et enfant et il a vendu tout ce qu'il avait comme bien matériel en France. Et au bout de 3 mois, il est revenu à la maison. Non, il n'avait plus de maison, il est revenu. Parce que ce n'était pas le plan de Dieu. Parce qu'il n'avait pas entendu la voix de Dieu. Il faut être attentif, frères et sœurs, que dans les choses de notre vie, on peut faire des choses qui sont impossibles parce que Dieu le veut. Mais que les choses sont possibles, oui. Faisons ce qui est possible. Dieu nous accompagnera. Mais ne cherchons pas, si vraiment nous ne sommes pas convaincus que le Seigneur veut nous donner les capacités et les qualités nécessaires pour aller là où il nous envoie, ne bougeons pas. Un vieux pasteur Burkhard disait, vous pouvez être appelé à partir, mais vous pouvez aussi être appelé à rester. Parce que ceux qui restent peuvent aider ceux qui partent. Parce qu'on peut apporter aussi le secours, l'aide, la prière déjà, mais aussi les biens matériels nécessaires pour que celui qui part ne soit pas démuni. Une nuée de témoins qui nous entoure. Je ne sais pas, pour vous ici, quel va être le plan de Dieu dans quelques jours. Mais il y a sûrement quelque chose que Dieu va vous montrer. Et va vous conseiller, va vous amener pleinement à réaliser ce que lui veut que vous soyez pour lui. Mais il y a une chose importante, déjà, dans cet aspect, dans ce texte, on dit rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courant avec persévérance. Toute entrave à notre vie chrétienne doit être rejetée, frères et sœurs. Toute entrave. Dieu nous aidera à aller plus loin. Dieu nous aidera à aller plus loin, mais il faut que notre volonté s'exerce aussi. Quand on dit « rejetons », c'est l'exercice de notre volonté. Combien parfois on dit « Seigneur, tu vois comment je suis malheureux, il y a ça qui est dans ma vie, oh Seigneur, enlève-le-moi ah. ». Ça peut arriver, mais souvent, ça reste parce que notre volonté ne se met pas en action. Tout fardeau et tout péché qui nous tombe si facilement, nous pouvons le rejeter. Nous pouvons vaincre, finalement, avec l'aide du Seigneur, bien sûr, mais parce qu'on le veut, parce qu'on le désire, aller plus loin et avoir une vie libérée, totalement libérée du fardeau qui est sur nous. Vous savez, le péché, c'est comme une sangsue. Une sangsue qui nous colle à la peau et qui nous vide de notre sang et qui nous épuise. On a beau crier, rien ne se passe. Il faut l'arracher, la sangsue. Il faut la rejeter avec l'aide des autres aussi. C'est pour ça que je dis, finalement, attention au jugement que nous pouvons porter les uns sur les autres. Parce qu'il y a, on voit quelqu'un qui est dans une erreur, dans une faute, un homme, un péché, on va le remettre de côté. Est-ce qu'on va l'aider à s'en libérer? Est-ce qu'on va lui donner un coup de main? Est-ce qu'on va l'encourager ou alors on va lui dire, tu n'arriveras jamais. Dieu ne t'aime pas. Puisque tu gardes ce péché, c'est que tu n'es pas aimé de Dieu. Attention à notre jugement. Attention à notre position que nous pouvons prendre face à des situations que des frères et des sœurs vivent dans leur vie de tous les jours. Et pour le rejeter, c'est notre décision. Bon, souvent, le combat qu'on voit certains hommes au niveau de l'alcool, par exemple, au niveau du tabac, au niveau de la pornographie. Si nous ne rejetons pas, si nous ne refusons pas ces choses, elles vont rester. Elles vont nous rattraper. Oh, vous allez tenir peut-être quelques mois, quelques semaines, et puis hop, ça repart. Parce que vous n'avez pas rejeté. Parce que vous n'avez pas refusé de continuer dans cette voie. Vous savez, il y a tant de choses aujourd'hui dans le monde qui vient agresser le chrétien. Essayer de la mener dans une position, en somme, d'échec, de contre-témoignage. Oh, oui, ce chrétien-là, c'est un hypocrite, il va à l'église, mais comment il se comporte dans la vie de tous les jours? Le dimanche, c'est un parfait chrétien. Et puis, le samedi, du lundi au samedi, c'est un homme comme les gens du monde. Et en plus, il parle de Dieu. Il ose parler de Dieu alors qu'il vit des choses qui sont contraires au plan de Dieu. Je me rappelle toujours, il y a des années, j'étais un jeune qui était ami avec les enfants de Marie-Thérèse. Il disait, Christ, c'est costaud. Christ, c'est costaud. Seulement, il était dans un bistrot, en train de boire quelques chopes de bière, un peu aviné, et il disait, Christ, c'est costaud. Ah oui. Où est-il aujourd'hui? Il n'a pas décidé d'abandonner. Il a préféré continuer sa vie en disant, oui, Christ, c'est costaud, pour les autres. Nous avons à vivre des décisions dans notre vie de tous les jours. On n'est pas tous peut-être dans la même trempe, on n'a pas tous le même caractère, on n'a pas tous les mêmes capacités. Il y en a qui peuvent se débrouiller tout seuls, mais d'autres, ils ont besoin de l'aide des autres. Et avoir le courage de dire, j'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'aide. Sans craindre le jugement de celui à qui on s'adresse. Je suis dans cette position, est-ce que tu peux m'aider? Mais surtout pas que celui qui a entendu aille le révéler à tout le monde. Hein, toujours la discrétion néanmoins. Mais une aide qu'on peut apporter à l'un et à l'autre d'une façon, peut-être pas secrète si on veut, mais non divulguée, et on voit les changements et transformations de vie qui s'opèrent. Parce que Dieu est à l'œuvre. Je briserai les portes d'airain, dit le Seigneur. Je briserai les verrous de fer. J'ouvrirai la cage pour que tu sortes. Seulement, beaucoup restent dans la cage. Ils n'osent pas sortir de cette cage parce que c'est inconfort. Parce que lorsqu'on est sorti, c'est sûrement une situation très inconfortable. Mais avec l'aide de Dieu et à l'aide des frères et sœurs, de ces témoins que nous sommes, nous pouvons nous en sortir. Tout péché est une entrave à notre marche. Sachez-le, frères et sœurs. Si ce matin, parmi vous, et si certains sont dans des positions de désespoir parce que les choses ne changent pas, croyez qu'aujourd'hui, Dieu vous parle et vous dit, prends courage. Prends courage. Moi, j'ai vaincu le monde. Et avec moi, tu pourras vaincre ce qui est en toi et qui te garde et qui te, comment dirais-je, qui t'envahit et qui te détruit. Regardons dans l'évangile de Marc, chapitre 9, quelques versets. Je les sème tous là. Marc, chapitre 9. À partir du verset 43. Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie que d'avoir les deux mains et d'aller dans la géhenne. Dans le feu qui ne s'éteint point et où leur ver ne meurt point. Et où le feu ne s'éteint point. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi être entré boiteux dans la vie que d'avoir les deux pieds et d'être jeté dans la géhenne, dans le feu qui les éteint point, où leur ver ne meurt point. et où le feu ne s'éteint point. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu n'ayant qu'un œil que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans la géhenne où leur ver ne meurt point et où le feu ne s'éteint point. Je ne veux pas insister sur les terminaisons, on parle du ver, on parle du feu, etc. Moi, ce qui m'importe, c'est ici que finalement, c'est une image. Je ne vais pas me couper la main, ni me couper le pied, mais m'arracher l'œil. Mais je vais décider de ne plus que mon regard ne soit plus celui qu'il y était auparavant. Combien parfois le regard exprime la convoitise? Combien la main qui se met en avant en poussant des hurlements ou des cris sans être prêt en faisant de qui que ce soit, on met le poing vers Dieu. Laissez tomber le bras. Et puis, si votre pied se dirige dans un lieu, il ne faut pas reculer. Mais c'est notre décision, toujours notre décision qui rend le compte. Ce n'est pas, Dieu ne va pas nous prendre par le col de la veste et vous faire partir. C'est à vous de décider. Et je pense que si aujourd'hui, parmi nous, quelques-uns sont dans cette position, décidez de suivre un nouveau chemin. Alors, comme disait Jésus, la porte est large et large est le chemin qui mène à la perdition. Mais étroit est la porte et étroit le chemin qui mène à la vie. Je briserai les verrous de fer. Il lui dit aussi, je marcherai devant toi. Je t'aiderai et fais les pas. Aujourd'hui, pour l'Église, c'est important que nous puissions marcher, comme disait tout à l'heure Robert, dans le chemin de la sainteté, de la sanctification. Mais ça ne peut être comme un vœu pieux. Ça doit être comme une décision ferme de chacun et de chacune d'entre nous. J'ai retrouvé dans un petit livre d'anecdotes, vous savez, j'en ai trois ou quatre que des pasteurs ont pu écrire. J'en ai une ici. Comment obtenir le salut, hein ? C'était le titre. Au cours d'une réunion au Canada, un blanc, bien blanc, et un indien, bien rouge, comprirent, l'un comme l'autre, qu'ils n'étaient pas en règle avec Dieu. Ils s'agenouillèrent donc l'un à côté de l'autre pour demander le pardon de Dieu. L'Indien se releva très rapidement, louant Dieu pour l'assurance de son salut, mais le blanc n'obtint rien. Il demanda donc à l'Indien comment il se faisait qu'il avait pu recevoir presque instantanément la grâce de Dieu. Voici, répondit l'Indien, dans le langage imagé de sa race, un prince est venu. Un prince est venu. Il vous a dit qu'il voulait vous donner un nouveau vêtement. Mais vous avez tout de suite regardé le vôtre et vous vous êtes dit, ce vêtement n'est pas encore usé. Il peut faire longtemps encore de l'usage. Alors le prince est venu vers moi. Il m'a fait la même offre. J'ai regardé ma vieille tenue, ma vieille veste, et je me suis dit, elle ne vaut plus rien. Je l'ai arrachée et j'ai pris le beau vêtement. C'est ainsi que Jésus est venu vers vous pour vous offrir sa grâce et vous avez pensé, je ne suis pas si mauvais que ça. Laissez-moi en moins quelques-uns de mes mérites. Mais le pauvre Indien a pensé, je suis un pécheur perdu, j'accepte la grâce. J'accepte la grâce. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Quand Dieu vient vers nous, je nous invite. Donnons-lui ce que nous ne devons plus garder. Parce que lui va le jeter dans le feu. Et il va nous donner un vêtement blanc. Un vêtement blanc que nous pouvons revêtir avec joie, avec allégresse, parce que notre vie a été changée, parce que nous avons été renouvelés les uns et les autres. Quand j'ai lu cette petite histoire, j'étais vraiment touché de voir comment, dans la simplicité d'une vie, Dieu parle plus qu'à ceux qui sont raisonneurs, qui cherchent à tout prix à se justifier. On ne peut pas se justifier devant le Seigneur. On ne peut pas se justifier. Alors, qu'est-ce qui peut donc retenir de nous approcher de Dieu, nos soucis, nos amitiés, les amitiés extérieures, notre propenchant, nos goûts. Ils ne sont peut-être pas mauvais. Mais qu'est-ce que Dieu nous demande? Il nous demande tout. Et quand on chante « Je te donne tout », on le chante. Mais est-ce qu'on est prêt à le faire? Parce qu'entre chanter et faire, il y a une nuance. Parce que si nous sommes débarrassés de ce fardeau, nous pouvons courir, quel que soit notre âge, pas la même vitesse. Je n'allais pas courir à votre vitesse, ça c'est sûr. Mais je pourrais courir toujours, et marcher, et avancer. Nos forces augmentent avec la marche. Et la marche dans la voie du Seigneur. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire, frères et sœurs? Plus d'entraves. Oui. Liberté, mais n'en faites pas ce que vous voulez de votre liberté. Que vous puissiez honorer le Seigneur à tous égards. Christ a souffert pour nous. Êtes-vous prêt à souffrir pour lui? Êtes-vous prêt à abandonner des choses qui vous sont plus importantes que votre salut à un moment donné pour aller plus loin? Vous savez, dans ma vie, j'ai eu aussi des échecs. J'ai traversé des moments difficiles. Parfois de déceptions énormes, d'abandon, une forme de lâcheté, de coups de poignard dans le dos, de gens qui m'ont, que j'aimais et qui un jour m'ont détesté, qui ont fait simplement, comment on pourrait dire, le travail du diable, tout en disant être chrétien. Ça, c'est le plus difficile. Mais Dieu m'a donné toujours de pouvoir continuer le chemin malgré tout. Comme disait le Sadhu Sundar Singh, si mes amis s'en vont, quand même, moi, j'irai. Si mes amis m'abandonnent, si des gens m'abandonnent, moi, je continue le chemin que Dieu m'a montré. Et je voudrais que vous puissiez, vous aussi, les uns et les autres, vivre cela, cette dimension. C'est dommage. Si des amis s'en vont et nous lâchent pour aller, on sait que faire. Nous, on a persévéré et à continuer. Je disais à Marie-Thérèse a fait plusieurs métiers, moi j'en ai fait qu'un seul. Et au même endroit, alors c'est terrible ça. C'est pas normal. Toute la politique aujourd'hui dire « Vous ne ferez jamais le même métier. Ah. Vous serez obligé de changer d'activité. » Non, pourquoi? Quand on aime ce qu'on fait, quand on est heureux dans son activité, pourquoi vouloir à tout prix aller ici, aller là, comme un petit oiseau? Je regarde sur la pelouse, je vois les merles qui sont en train de sautiller sur la pelouse, qui cherchent un ver ici, et puis hop, il va un peu plus loin, il en cherche un autre. On en voit un. Hein, ça, c'est amusant de voir la nature, de voir les choses autour de nous. Ça va. Ils ont souvent, même les oiseaux, un regard très, très aigu. Un grain de blé qui est à 10 mètres, ils le voient. Convoitise, hein? Il en voit un autre un peu plus loin, puis il retourne ce grain. Je lui dis, Seigneur, tu m'as donné de pouvoir être stable. Bon. Merci Seigneur. Dieu veut nous donner à chacun une stabilité dans la foi et dans l'espérance, et aussi dans, qu'on pourrait dire, le comportement général dans notre vie. Témoin de Jésus-Christ. C'est pour ça que l'auteur de l'Épître dit « Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang, en luttant contre le péché. » Résister. Que nous puissions tous résister, frères et sœurs. Et que notre vie soit exemplaire, pas simplement dans l'Église, mais que cela soit vu à l'extérieur. Pourquoi es-tu ainsi ? Je rappelle d'un des jeunes que nous avons connus, oh, je pourrais citer leur nom, parce qu'ils ne seraient pas gênés. Il y avait nommé Stéphane Caro et Jean-Christophe Huette. Jean-Christophe Huette, il est venu ici. Ils étaient étudiants tous les deux à Brest, dans la même matière, sciences de l'éducation. Et l'un était un fervent syndicaliste. C'est Christophe Huette, syndicaliste étudiant, toujours agité, toujours plein d'activités. Et puis l'autre, Stéphane Caro, était quelqu'un de calme, pondéré, sans humeur particulière, avec un langage toujours correct, hein, qui parlait posément. Et Jean-Christophe a été interpellé. Il a dit, qu'est-ce que tu as, toi ? Qu'est-ce que tu as dans ta vie ? Pour que tu sois ainsi, tu m'intrigues. Je dis, j'ai Jésus-Christ. Ah, j'ai Jésus-Christ. Eh bien, ça l'a tellement interpellé qu'il s'est converti. Que l'un est resté dans une vie stable aussi, il était ancien dans une église à Dijon, tandis que Jean-Christophe est parti en mission. Et le travail qu'il a fait au niveau de l'éducation, c'était extraordinaire. Comment il a ouvert des écoles un peu partout, au Tchad en particulier. Et comment aujourd'hui, au niveau africain, il est reconnu comme étant un ministère particulier pour l'éducation. Mais c'était sa vocation. Mais Dieu l'avait appelé. Il avait fait une formation, disons, intellectuelle, universitaire. Mais il fallait que Christ rende sa vie pour qu'il soit utile sur le plan de vie. Il avait vu dans l'un qui avait quelque chose qu'il n'avait pas lui. Et ça lui a donné le désir de l'acquérir. Et c'est donné à Christ. Il n'a jamais dérogé. Et ça me réjouit de voir combien on peut avoir des tempéraments différents, mais avec une même vocation. Stéphane est professeur dans un IUT, professeur. Il est resté en France. Jean-Christophe, lui, est parti en Afrique. Mais il a servi dans le même service, mais d'une autre manière, sur le terrain. Soyons, frères et sœurs, attentifs à ce que Dieu attend de nous. Nous ne devons pas envier celui qui fait beaucoup de choses et ne pas mépriser celui qui ne fait pas grand-chose. Parce qu'à chacun est donné selon ses moyens, selon ses capacités pour servir Dieu. Nous sommes entourés d'une nuée de témoins. Vous êtes témoins. Et je me réjouis de vous voir tous là, jeunes et moins jeunes, parce qu'il y a encore, pour les plus âgés, il y a encore des choses à faire. Pour les jeunes, il y a beaucoup de choses à faire. Et j'espère que je pourrai encore voir parmi nous se lever des jeunes qui sont à cœur de servir et d'honorer le Seigneur dans leur domaine, qui ne peut pas être le mien. Que Dieu vous bénisse et vous encourage. Je vais prier un instant. Seigneur, merci de nous rappeler que tu as fait de nous tes témoins, mais des témoins qui ont de la volonté, qui ont le désir de servir, de t'honorer et qui sont prêts à payer le prix. Nous te remettons encore cette journée aujourd'hui pour nous tous. Tout ce que, à travers ce que tu m'as mis sur le cœur de dire, Seigneur, il puisse avoir des temps de réflexion, des mises au point avec toi. Tu es tout puissant et tu peux aider celui qui ne pense pas être aidé. Et tu peux aussi mettre ta main et arrêter quelqu'un qui veut aller trop loin. C'est toi qui es le tout puissant. Et nous voulons nous soumettre à toi et reconnaître que tu as toute autorité sur nos vies. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen.